genre de vie, affaires, études, correspondances, théâtre de société. Il s'est passé beaucoup de temps avant que Madame de Staël pût s'astreindre à régler l'emploi de ses heures. Depuis qu'elle a été forcée à vivre dans la retraite, elle a senti la grande utilité d'une distribution raisonnée des occupations. Trouvant non seulement que c'est un moyen de travailler davantage, mais ayant encore observé que, dans une vie dénuée d'événements, la monotonie des journées berce et assoupit, pour ainsi dire, la trop grande activité de l'âme. Néanmoins, elle n'a mis aucune roideur dans la règle qu'elle s'imposait, et n'a point contracté d'habitude tenace. Jamais le mécanisme de l'organisation humaine ne s'est moins fait sentir que chez Madame de Staël. Aucune puissance aveugle ne la dominait, et chaque fois que l'occasion l'exigeait, elle pouvait changer subitement de manière de vivre. Éprouvant très peu de besoins matériels, ignorant ce que c'est que la langueur et le découragement, elle n'était jamais lasse d'agir ni de penser. Le froid, le chaud, les variations de la saison n'exerçaient sur elle aucune influence. Si elle avait un grand besoin de mouvement moral, l'exercice corporel ne lui était nullement nécessaire. Aussi elle croyait peu à la faiblesse des nerfs, et méprisait assez le soin minutieux de la santé. « J'aurais pu être malade tout comme une autre, » me dit-elle un jour, « si je n'avais pas vaincu la nature physique. » Mais, hélas, avec cette nature, on n'a jamais le dernier mot. Elle consacrait donc la matinée aux affaires, c'est-à-dire aux soins de sa fortune et à l'étude, et le soir à la société ou à sa correspondance. Je vais la considérer un instant encore sous quelques-uns de ses rapports. Malgré la libéralité et la noble facilité du caractère de Madame de Staël, il régnait un grand ordre dans l'administration de sa maison et de ses biens, en sorte que sa fortune a constamment prospéré pendant qu'elle l'a gouvernée. Elle avait pris de l'humeur contre ceux qui lui supposaient une mauvaise tête, parce qu'elle avait un beau génie. Et comme il lui était souvent arrivé que ses débiteurs qui avaient annoncé, ainsi qu'une chose simple et qui allait sans dire, avec une personne aussi distinguée, qu'il ne la payerait pas, ce genre d'hommage l'impatientait singulièrement. Regardant l'esprit comme propre à tout, elle s'en serait moins crue à elle-même si elle n'avait pas su conserver son patrimoine. Elle n'eût pas été inaccessible aux soucis de fortune, et son imagination se serait aisément transportée dans ces sortes de peines. Durant les temps de révolution, elle a souvent craint d'être ruinée. Alors l'idée qu'elle ferait subsister ses enfants par son travail la soutenait, et elle entrait dans des calculs précis à cet égard. Plus tard, elle a exigé que son fils mît beaucoup de persévérance dans l'affaire du recouvrement de ses biens. Mais il y avait de la dignité et de la philosophie dans toutes ses recommandations. « Ne te tourmente pas sur le non-succès, » lui écrivait-elle. « Fais ce que doit, advienne que pourra. Tout ce qui ne touche pas au cœur laisse la vie libre. » Un ministre de Bonaparte lui ayant fait dire que l'empereur la payerait si elle l'aimait. « Je savais bien, » répondit-elle, « que pour recevoir ses rentes, il fallait un certificat de vie. » Mais je ne savais pas qu'il fallût une déclaration d'amour. L'essentiel pour Madame de Staël, dans les affaires de fortune, était de n'avoir rien à se reprocher. En conséquence, les dépenses superflues lui déplaisaient, et si elle aimait beaucoup à procurer du plaisir, elle n'accordait rien à la vanité. On voulait un jour lui faire honte de ce que sa chambre à couper n'était pas plafonnée, et de ce qu'on y voyait les poutres. « Voit-on les poutres ?» dit-elle. « Je n'y avais jamais pris garde. Permettez que cette année, où il y a tant de misérables, je ne me passe que les fantaisies dont je m'aperçois. » Le seul luxe auquel elle mit du prix était la facilité de loger ses amis chez elle et de donner à dîner aux personnes qu'elle avait envie de connaître. « J'ai pris un cuisinier qui court la poste, » disait-elle. « N'est-ce pas là exactement ce qu'il me faut pour donner à dîner aux débeautés dans toute l'Europe ?» Madame de Staël était singulièrement aimable et naïve quand elle rendait compte de l'impression que produisait sur elle tout le matériel de la vie. les petites ruses des subalternes, leur genre d'esprit, la finesse des paysans, l'amusaient à observer. Elle prenait un plaisir d'enfant à certains petits détails, et croyait s'être arrangé une cabine superbe lorsqu'elle y avait fait mettre un papier neuf. Sa manière de travailler était d'accord avec tout le reste. Elle n'a mis aucune pédanterie dans sa vocation d'auteur. L'étude et la composition étaient pour Madame de Staël une ressource nécessaire, un moyen de calmer et de retremper à la fois son âme agitée, de maintenir son esprit à sa véritable hauteur. La route et le but convenaient également à sa destinée. Et cependant, ses amis avaient sans cesse le tort de la détourner de ses occupations, parce qu'ils étaient toujours bienvenus auprès d'elle. Il n'y a pas d'exemple que dans le moment où elle écrivait avec le plus de feu et de rapidité, elle ait témoigné autre chose que du plaisir en voyant entrer ceux qu'elle aimait. Dès sa plus tendre jeunesse, elle avait contracté l'habitude de prendre en gaieté les interruptions. Comme M. Necker avait interdit à sa femme la composition, dans la crainte d'être gênée par l'idée de la déranger en entrant dans sa chambre, Mlle Necker, qui ne voulait pas s'attirer une telle défense, s'était accoutumée à écrire, pour ainsi dire, à la volée, en sorte que, la voyant toujours debout ou appuyée sur un angle de cheminée, son père ne pouvait imaginer qu'il lui fît suspendre un travail sérieux. Elle a tellement respecté ce petit faible de M. Necker que ce n'est que longtemps après l'avoir perdu qu'elle a eu dans sa chambre le moindre établissement pour écrire. Enfin, lorsque Corinne eut fait un grand fracas dans les pays étrangers, elle me dit « J'ai bien envie d'avoir une grande table. Il me semble que j'en ai le droit à présent. » Pour s'accommoder de cette manière décousue de travailler, il fallait un cœur aussi avide d'amitié que celui de Madame de Staël. Il fallait encore un esprit aussi présent que le sien. Elle retrouvait à volonté le cours et le mouvement de ses idées. Il n'y avait point de hasard dans sa verve, et elle eût écrit dans tous les moments ses pages les plus éloquentes. On pouvait remarquer en elle la double faculté de ne point perdre de vue un objet et de n'en être point trop occupée. Ainsi, elle tournait souvent la conversation sur le sujet du travail qu'elle avait entrepris pour essayer l'effet de ses propres idées et recueillir celles des autres. Mais cela arrivait sans que l'on s'en doutât, souvent même sans intention précise de sa part, et parce qu'elle pensait tout haut avec ses amis. Je n'ai jamais compris où elle prenait du temps pour méditer ses ouvrages. L'organisation de sa vie prouve même qu'elle ne consacrait particulièrement aucun moment à la réflexion. Elle m'a toujours développé le plan de son prochain écrit et nous discutions ce plan en détail. Une fois à Genève, il m'arriva de lui dire « Mais vous qui dormez toute la nuit et qui agissez et causez tout le jour, quand avez-vous donc songé à cette ordonnance ?»« Eh mais, dans ma chaise à porteur !» me répondit-elle en riant. Or, cette chaise à porteur, elle n'y était jamais plus de 5 minutes. Cependant, elle avait déterminé le titre et la matière de tous les chapitres. Il y a eu en conséquence dans sa vie peu de moments où elle ait tout à fait abandonné le travail. Ses facultés dominaient le plus souvent sa douleur. Et comme il existait toujours une relation entre ce qu'elle écrivait et le sujet de ses peines, elle pouvait encore composer lorsque la lecture ne lui offrait pas une distraction suffisante. « Je ne comprends rien à ce que je lis, » disait-elle, « et je suis obligée d'écrire. » Mais si son esprit aimait à former des projets littéraires, il perdait en revanche très promptement de vue ses anciennes productions. « Quand un ouvrage est imprimé, » disait-elle, « je ne m'en occupe plus. Il fait bien ou mal son affaire tout seul. » À l'exception de Delphine, qu'elle a examinée avec soin, parce qu'on l'avait inquiétée sur l'effet moral de ce roman, je ne crois pas qu'il lui soit arrivé de relire ses propres livres. Elle y pensait même si peu qu'elle les oubliait tous, successivement. Lorsqu'on lui en citait quelques phrases, elle était tout étonnée et répondait « Eh, mais vraiment, est-ce moi qui ai écrit cela ? J'en suis charmée, c'est dit à merveille. » Une fois, deux de ses amis avaient arrangé ensemble son chapitre sur l'amour, dans l'influence des passions, en mettant l'amour divin à la place de l'amour terrestre. Lorsqu'ils vinrent lui lire ce morceau, Elle l'écouta jusqu'à la fin avec la plus grande attention, toujours enchantée et toujours impatiente d'en connaître l'auteur. L'ennui d'avoir à revenir sur de vieilles idées et de vieilles rédactions entrait pour quelque chose dans la magnanimité qu'elle a eue de ne répondre à aucune critique. Si on l'eût menacé de détruire tous ses livres déjà publiés, on ne l'aurait pas fort effrayée. Les oracles, une fois rendus, elle eût volontiers, comme la Sibylle, laissé emporter au vent les feuilles de chêne. Elle avait même le besoin d'écrire plus que celui de publier. Elle supporta très patiemment la saisie de son ouvrage sur l'Allemagne. Et quand on lui vint dire que le général Savary mettait l'édition au pilon pour en faire du carton, « Je voudrais bien au moins, répondit-elle, qu'il m'envoyât ses cartons pour mes bonnets. » Jamais auteur n'a moins vécu en présence de sa réputation. Jamais on n'a moins été enivré par le succès. Il y avait toujours quelque triste retour sur le reste de sa destinée dans les jouissances de son amour-propre. Et elle semblait dire de ce genre de plaisir, « N'est-ce donc que cela ?» Toutefois, elle n'affectait nullement de désavouer sa gloire, ni ses droits à cette gloire même. Elle avait eu la conscience de sa supériorité, et parfois elle a dit de tel auteur cité, « Il n'est pas mon égal, et si jamais nous nous battons, il sortira boiteux de la lutte. » Très jeune encore, et dans un temps où on avait le pressentiment plutôt que la preuve de ses forces, je lui ai entendu porter si haut ses espérances qu'il m'est arrivé de douter qu'elle parvint à les réaliser. On pouvait quelquefois être étonné de certaines phrases peu reçues qu'elle prononçait fort simplement, « Avec tout l'esprit que j'ai, avec mon talent, ma réputation, etc. » Elle répétait souvent à ses amis les louanges qu'on lui donnait en lui écrivant, mais il y avait une extrême bonhomie dans son amour-propre. Il n'était point toujours là, et quand il s'y trouvait, il disait franchement « Me voici ». Ce qui est vraiment insupportable dans la vanité, c'est quand on la découvre tout à coup à la place du sentiment ou de la dignité du caractère. Lorsqu'elle se donne naïvement pour ce qu'elle est et qu'elle n'a jamais ni dédain ni arrogance, ce n'est point un principe dominant dans l'âme. D'ailleurs, les moments de vanité étaient courts chez Madame de Staël. La louange lui donnait du plaisir, mais on voyait bientôt briller en elle quelque nouvel éclair de talent ou de sensibilité. Une preuve encore que son amour-propre n'avait nulle âpreté, c'est, comme elle l'a dit mille fois, que les éloges lui ont toujours donné plus de satisfaction que les critiques ne lui ont causé de peine. Si l'on a beaucoup vanté les lettres de Madame de Staël, c'est parce qu'on y retrouvait une faible image d'elle-même. Il ne me semble pas qu'elle eût, comme Madame de Sévigné pour le style épistolaire, un talent particulier, un de ses dons naturels qui paraissent presque indépendants des facultés de la personne. Ses lettres, pour le feu et la verve, n'égalaient pas sa conversation. Elle n'y mettait que l'esprit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir. Mais cela même était beaucoup, sans doute. Il y régnait un grand charme de sensibilité et une teinte douce de tristesse qui en faisait tour à tour le mérite et le défaut. Au reste, elle ne regardait les lettres que comme des moyens indispensables de communication et ne les envisageait jamais sous le rapport littéraire. Depuis que j'ai visé tout ouvertement à la célébrité par mes livres, je n'ai plus donné aucun soin à mes lettres, disait-elle. En conséquence, elle prenait souvent pour sa correspondance le temps de la société et écrivait tout en soutenant la conversation. Les plus remarquables des lettres de Madame de Staël, après celles qu'elle adressait à son père, sont celles qu'elle a écrites dans l'intimité. Sa longue correspondance avec moi est un trésor d'amitié, de candeur, une source de larmes et néanmoins de bonheur pour le reste de ma vie. Elle a encore été prodigieusement distinguée dans les lettres qu'elle écrivait au moment de l'inquiétude, de l'indignation ou de la douleur. Alors, entraînée par un sentiment impérieux, elle entassait sans y songer de nombreuses pages toutes brillantes de la plus admirable éloquence. Je ne ferai pas le même éloge des lettres que Madame de Staël a tracées dans un mouvement d'enthousiasme passager ou sans mouvement véritable. Elle n'a pas toujours été exempte, dans ces sortes de lettres, d'un peu d'exagération. Et on y reconnaît parfois le talent du romancier qui tire parti, pour l'effet, de l'impression du moment ou d'une supposition chimérique et qui ne sait pas résister à l'attrait des couleurs éclatantes. Ainsi, une nuance d'intérêt faible et fugitive la jetait dans l'idéal du sentiment, et elle s'exaltait sur ce qu'elle aurait pu éprouver. Elle-même disait que, quand elle tenait la plume, sa tête se montait, et elle racontait qu'à l'âge de 14 ans, sa mère l'ayant chargée d'écrire à un vieux ami de la maison, elle se servit d'expressions si vives et si passionnées qu'on fut obligé de lui faire recommencer 3 fois sa lettre avant que le style en fût assez calme pour qu'on pût l'envoyer à son adresse. Madame de Staël a connu la meilleure partie de la littérature européenne, sans avoir jamais employé un temps considérable à l'étude. Elle lisait vite, sans lire superficiellement, et elle n'a jamais rien passé d'intéressant, ni donné une minute à rien d'inutile. Elle jugeait de génie, si on peut dire. Un tact très sûr lui indiquait bientôt l'esprit, le caractère et l'intention secrète d'un auteur, et elle se servait ensuite de cette connaissance pour apprécier l'ouvrage. Aussi, nul mérite d'exécution ne pouvait la réconcilier avec un but ou des sentiments moralement équivoques, ou avec la stérilité d'idées, et c'était toujours en leur qualité d'homme qu'elle évaluait les écrivains. Et comme le style offre, selon elle, la couleur propre à l'individu, elle a toujours lu en original les auteurs étrangers, et elle a eu le courage d'apprendre dans l'âge mûr les langues qu'on ne lui avait pas enseignées durant sa jeunesse. Elle attachait un prix infini à ce genre d'études, trouvant que la pensée s'ouvre de nouvelles routes en changeant d'idiome. Apprendre et juger les langues était, suivant son avis, l'exercice le plus salutaire pour l'esprit et le seul moyen de connaître le caractère des peuples. Elle citait avec plaisir le mot du vieux poète Ennius, qui disait qu'il avait 3 âmes parce qu'il parlait 3 langues. Une fois, on lui demanda quel serait le livre qu'elle choisirait si elle était condamnée à n'en posséder qu'un, après avoir accepté la Bible et le cours de morale religieuse de son père. Elle dit que pour la pensée, elle prendrait Bacon. C'est l'auteur qui lui semblait le plus inépuisable. Dans le domaine de la pure littérature, elle ne tenait compte que des effets. La difficulté vaincue n'était rien pour elle. Il lui fallait de la beauté. Mais il n'est aucune beauté qui ne la touchât. Extrêmement sensible au charme des sons, elle répétait avec ravissement des mots ou des phrases harmonieuses. Certaines strophes lyriques lui donnaient un plaisir tout à fait indépendant de leur signification, et, après les avoir pompeusement récitées, elle s'écriait « Voilà de la poésie ! Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une idée !» Elle se moquait d'elle-même sous ce rapport avec beaucoup de grâce, et disait qu'elle n'avait jamais pu entendre, sans avoir des larmes dans les yeux, ce vers. « Votre nom, Moncassin. Votre pays, la France. » Elle citait encore cette phrase. « Les orangers du royaume de Grenade et les citronniers des rois morts. » Comme produisant sur elle un grand effet. C'est ainsi que les plaisirs de la littérature, et même ceux du monde, étaient pour elle ce qu'ils ne sont pour personne. Il y avait de l'émotion, et si on peut le dire, du talent dans tout ce qu'elle éprouvait. Une musique, une danse la frappait. Un mauvais orgue dans la rue la ravissait. Une fois qu'elle vit danser le menuet à Mademoiselle Bigottini, elle fut dans l'enchantement et dit à sa fille « Pendant ce temps, j'aurais voulu le rétablissement de l'ancien régime. » Mais, pour en revenir à ses goûts littéraires, ce qui la transportait au-delà de toute idée, c'était les morceaux d'imagination. Elle avait à cet égard des impressions d'une vivacité extraordinaire, et quand elle faisait quelque découverte dans ce genre, elle en parlait et reparlait sans cesse. Elle avait besoin de donner à lire à tous ses amis les endroits qui l'avaient frappée, et sa joie faisait événement dans sa société. René, l'épisode de Velléda dans Les Martyrs, la scène de l'enterrement dans l'Antiquaire et les premiers poèmes de Lord Byron lui ont causé des émotions inexprimables et ont pour un temps renouvelé son existence. Cette grande sensibilité lui donnait en littérature un tact très sûr, parce qu'elle était certaine que ce qui ne la touchait pas n'avait point de beauté réelle. Cela est bien, disait-elle quelquefois de certains morceaux, mais cela n'est pas prenant, ou cela n'est pas impressif. On peut m'en croire dans mes observations sur les faits, parce que je suis peuple par l'imagination. Aussi, elle ne s'est jamais trompée sur le succès futur d'un ouvrage. Ses conseils aux littérateurs étaient tous remarquables parce qu'elle avait la connaissance la plus précise, soit des moyens de l'auteur, soit de la manière propre au sujet, soit des dispositions d'une nation ou d'un public. Elle parlait aux écrivains qui la consultaient avec cette énergique franchise que sa supériorité, la qualité de femme et surtout l'intérêt extrême qu'elle mettait à leur succès lui donnaient le droit de montrer. Sans doute quelques amours propres irritables ont pu être froissés par ses observations, mais elle avait un sentiment si vif de chaque mérite qu'elle renvoyait plein d'espérance ceux que sa bonne foi avait un moment contristés. Souvent, elle a découvert, réchauffé le germe du talent qui s'ignorait lui-même. Rien n'enflammait l'émulation comme ses encouragements. Et, quand c'était ses amis qui se lançaient dans l'arène, quelle vivacité! Quel feu pour les servir! Quel désir de leur voir tirer le meilleur parti de leur talent, de leur sujet, de leur moindre pensée! Quand elle examinait avec eux leurs écrits, aucun détail n'était trop minutieux pour sa patience. Elle relevait les plus petits défauts d'élégance et d'exactitude, s'engageant parfois dans les distinctions grammaticales les plus subtiles. Et souvent, on lui voyait déployer une telle sagacité, un tel tact d'imagination, que même pour un tiers, ces discussions étaient très intéressantes. Non seulement l'ensemble de sa société et de sa conversation a fourni l'occasion d'un grand développement aux hommes distingués qui ont vécu dans son atmosphère, mais ses conseils positifs leur ont été d'une extrême utilité. Et je ne crois pas qu'un seul d'entre eux osa soutenir que sans elle, il eût atteint le degré de hauteur auquel il est parvenu dans la suite. Et moi qui m'essaye ici à tracer cette faible esquisse d'elle-même, moi qui, dépourvu à la fois de jeunesse et d'expérience, me hasarde à écrire pour la première fois, j'ai besoin d'elle à tout instant. Je l'interroge à chaque ligne. Je ne sais si j'exprime ce que je sens. Et toujours l'espoir d'être approuvé d'elle est la chimère qui me soutient. Parmi les beaux-arts, le plus habituellement nécessaire à Madame de Staël était la musique. Musicienne elle-même et douée d'une belle et grande voix, elle n'a cessé d'exercer son talent que lorsque ses enfants ont pu lui procurer le genre de distraction qu'elle demandait à l'harmonie. Elle voulait y puiser à la fois du calme et de l'inspiration, l'oubli de la réalité et le pressentiment d'une autre existence. Cet art qui imprime du mouvement à notre esprit sans le secours des pensées et excite des émotions tendres sans celui des affections, avait pour Madame de Staël un charme que rien ne pouvait remplacer. Cependant, tous les genres de musique ne lui plaisaient pas. Les airs dont le rythme et la mélodie sont marqués faisaient seule impression sur elle. La musique savante, la musique spirituelle ne lui disaient rien. Et quand je lui faisais remarquer que certains morceaux pleins de piquant et d'originalité, tels que Haydn, en offrent un si grand nombre, produisent sur nous un effet très analogue à celui de l'esprit, j'aimerais mieux que cet esprit fût parlé, me répondait-elle. Elle s'impatientait comme d'une espérance trompée de tout ce qui ne l'attendrissait pas, mais elle éprouvait aussi quelquefois d'inconcevables ravissements. Je l'ai vue fondre en larmes en écoutant la romance de Marie Stuart, exécutée par des instruments avant. Et comme les impressions vives étaient créatrices chez elle, c'est pendant qu'elle entendait certains airs touchants ou sublimes que lui est venue comme d'en haut l'idée de ses morceaux les plus poétiques. Mais de tous les amusements de société, le plus vif pour elle étaient des représentations théâtrales. Et, sans parler ici des plaisirs qu'on donnait à une personne si sensible, si mobile d'imagination, les chefs-d'œuvre de la scène, exécutés par les plus grands artistes, je dirais le plaisir qu'elle a trouvé, comme actrice, au milieu de la petite troupe d'amis qu'elle avait formée elle-même. Jouer la tragédie surtout, excitée en parlant une langue divine de profondes émotions, se mettre tellement en harmonie avec les sentiments d'une assemblée nombreuse qu'un regard, un geste, une inflexion de voix retentissent au fond de tous les cœurs, était, selon Madame de Staël, un développement de l'existence, une jouissance exaltée et sympathique dont rien ne peut donner l'idée. Elle produisait véritablement de très grands effets. L'enthousiasme dont elle était saisie imprimait à sa figure un caractère frappant et élevé. La blancheur éclatante de ses bras, ses gestes nobles et gracieux, ses poses pittoresques, et son regard surtout, son regard tour à tour sombre, pénétrant, enflammé et toujours naturel, donnait à l'ensemble de sa personne un genre de beauté en rapport avec l'art, et tel que le poète tragique l'eût choisi. Sa voix sonore et nuancée remplissait la salle, et jamais on n'a maîtrisé avec plus de force l'attention des spectateurs. Elle n'avait pas sans doute un talent d'artiste, mais son jeu était spirituel et pathétique au dernier point. Elle faisait verser beaucoup de larmes, et la vérité de son expression remuait le fond du cœur. Sa troupe entière était électrisée par elle. Un assemblage un peu hétérogène se mettait en harmonie sous son influence. Et de même que dans la conversation, elle faisait de tous ses interlocuteurs des gens d'esprit. Sur son petit théâtre, elle changeait en héros tous ses amis. Comme elle déclamait d'inspiration, son jeu variait beaucoup d'une représentation à l'autre. Assez sujette à se blaser sur les effets prévus d'avance, elle se plaisait tour à tour à tromper et à surpasser l'attente. Ainsi, elle repoussait souvent dans l'ombre ces mots fameux qui sont regardés comme l'épreuve du talent, et puis elle relevait avec tant d'éclat telle autre expression, jusqu'alors peu remarquée, qu'elle la faisait paraître sublime. S'éloignant à chaque instant par là des routines théâtrales, elle trouvait moyen d'être originale avec ce que tout le monde sait par cœur. Son émotion en jouant la tragédie était très forte. Dans Zahir, par exemple, elle n'a jamais pu apprendre à détacher sa croix sans la casser. Cependant, cette émotion ne produisait aux yeux des spectateurs aucun effet irrégulier et semblait lui donner de l'élan et non du trouble. Elle avait l'esprit parfaitement présent aux divers incidents de la scène et ne perdait point la direction d'elle-même ni des autres. Mais rien n'était plus piquant que de lui voir jouer la comédie. Toute sa verve, toute sa gaieté éclataient dans son jeu. Les rôles de soubrette l'amusaient surtout. Il y avait déjà du comique dans le contraste, senti par elle et par tous, du petit manège, des ruses intéressées du personnage, avec l'élévation des pensées et des sentiments de l'acteur. Peut-être pour la perfection de l'art, se laissait-elle un peu trop reconnaître dans tous ses rôles. Elle transportait ses personnages en elle, plutôt qu'elle ne se transportait dans ses personnages. Et il est étonnant qu'elle ait pu rendre toutes les nuances des caractères les plus opposés aux siens, en restant Madame de Staël dans son plus parfait naturel. Mais c'est ainsi qu'elle a été dans ses écrits et dans la société, toujours variée et toujours elle-même. Cependant, il est des rôles qu'elle n'a jamais bien saisis. Quand, par exemple, un caractère lui rappelait un certain idéal dont elle s'était longtemps occupée, elle le ramenait à cet idéal sans tenir compte des différences. Ainsi, soit qu'elle ait voulu jouer ou composer des Nina, elle a toujours échoué. Elle n'imitait jamais que le délire poétique et représentait des Sappho ou des Corinne. La véritable folie, l'incohérence des pensées n'a pu être comprise d'elle. Sa tête était foncièrement trop bien organisée pour la concevoir. Ceci me rappelle une anecdote qui fera connaître Madame de Staël sous un autre rapport. Il y a environ 20 ans que, dans un séjour qu'elle faisait chez moi à la campagne, il fut question de jouer des proverbes. On fit choix d'un canevas de Carmontel intitulé « Le Mavard », dans lequel une grande dame, malade et vaporeuse, consent à s'intéresser en faveur d'un vieux militaire qui sollicite une pension, mais sous la condition expresse qu'il lui expliquera son affaire en peu de mots. Le bavard, à qui l'on a fait sa leçon d'avance, se laisse néanmoins entraîner à une telle intempérance de parole qu'il excède sa protectrice et qu'elle ne veut plus entendre parler de lui. Madame de Staël représentait la grande dame. Elle remplit d'abord fort bien son rôle. Elle contrefit à merveille la langueur, puis l'ennui, puis le dépit et l'impatience. Mais, quand vint le moment d'affliger le vieux soldat, il lui fut impossible de s'y résoudre. Il avait parlé de sa femme et de ses enfants. C'était au fond le meilleur homme du monde. Il fallait trop de dureté pour le refuser. Sortant donc tout à fait de son rôle et manquant net l'épigramme de la pièce, elle lui dit avec une émotion véritable qu'une autre fois il ferait mieux de ne pas tant parler, mais que, quant à présent, elle se chargeait de son affaire. Telle était en effet Madame de Staël. Non seulement elle n'a jamais pu affliger volontairement qui que ce fût, mais cette personne si sujette à l'ennui n'en éprouvait réellement aucun dès qu'il s'agissait d'être utile aux autres. La gaieté vive et piquante qui animait la conversation de Madame de Staël, n'ayant laissé que des traces éparses dans ses écrits, il est curieux d'en retrouver l'expression dans de petites comédies qu'elle composait pour son théâtre de société. Ses pièces étaient pleines d'originalité, et les idées favorites de l'auteur s'y montraient travesties de la manière la plus plaisante. Tantôt, c'était une Corinne bourgeoise, une Signora Fantatici, musicienne, comédienne, poète, qui arrive dans une petite ville de Suisse, où, depuis 200 ans, chacun faisait chaque jour la même chose. Elle tourne d'abord la tête à un des fils de la maison, puis à l'autre, puis au père, puis à la mère elle-même, puis jusqu'au commissaire qu'on envoie pour l'arrêter, et elle emmène tous ses personnages avec elle en Italie. Tantôt c'était un fat qui échange le portrait de sa maîtresse contre deux copies de son propre portrait, qui renonce à une femme pleine d'esprit et de grâce parce qu'elle l'éclipse en société, et finit par demander en mariage une personne du mérite le plus modeste, mais qui, par malheur, se trouve n'être qu'un mannequin. De toutes ces petites pièces, celle où il y a le plus de force comique, c'est une comédie qui n'a point de but précis et qui est intitulée « Le capitaine Kernadec ». Le sel d'une telle plaisanterie ne saurait passer dans un extrait, et il ne resterait que l'invraisemblance de l'idée principale. Mais partout où il se trouvera de bons acteurs, on pourra juger de l'effet original de cette bagatelle au théâtre. Madame de Staël a composé aussi quelques drames sérieux sur des sujets tirés de la Bible ou de la légende. La beauté pathétique de son langage, la grandeur et je dirais la sincérité de ses sentiments étaient bien nécessaires pour qu'elle se crût certaine de disposer religieusement toute une assemblée préparée au plaisir et pour qu'elle n'eût pas également à redouter l'indifférence ou les scrupules de ses juges. Cette difficulté était peut-être d'autant plus grande que les spectateurs la pressentaient, et néanmoins elle en a toujours triomphé. Elle avait quelque chose de si pénétré. Il régnait tant de douceur dans sa manière, tant de modeste et noble candeur dans une sorte d'application faite confusément de ses rôles à elle-même, qu'on était attendri dès le début. Cette mère, ses enfants, principaux acteurs de ses pièces, touchait sous 1000 rapports, et une suite de tableaux enchanteurs que Madame de Staël avait l'art d'amener répandait une magie puissante sur l'ensemble. Agar dans le désert, entre autres, drame que Mademoiselle de Staël, alors âgée de 6 ans, embellissait de tout son charme en remplissant le rôle du petit Ismaël. Agar dans le désert offrait une succession de poses et de groupes digne d'inspirer un grand artiste. Un de ces drames, le plus distingué peut-être par la couleur antique et orientale du langage, la Sunamite, donna lieu à un singulier développement de caractère chez Madame de Staël et nous fit voir comment son talent pouvait réagir sur elle-même. Elle avait voulu peindre la vanité maternelle dans la personne d'une femme qui, ayant obtenu du ciel le bonheur inespéré de devenir mère, jouit avec trop d'ivresse des dons brillants dont sa fille a été comblée, et ne peut se résoudre à tenir la promesse qu'elle a faite de vouer cet enfant au Seigneur. Une scène très frappante montrait la punition de la Sunamite. À une époque qui devait être particulièrement sacrée pour cette mère, elle avait préparé une fête mondaine où sa fille put paraître avec éclat. Déjà, la jeune personne avait fait entendre sa belle voix. Déjà, elle commençait à déployer ses grâces dans une danse figurée, quand on la voit tout à coup défaillir et tomber, comme atteinte d'un trait mortel, au milieu de ses compagnes. Cette situation, dont Madame de Staël n'avait peut-être pas prévu toute la force, fit sur elle une telle impression que le lendemain, sa fille, qui avait joué le rôle de la jeune personne, ayant été légèrement indisposée, elle fut dans l'état d'inquiétude le plus violent et crut s'être attiré le malheur de la Sunamite. On a pu juger, par ses légères productions, que Madame de Staël avait à un haut degré le talent de l'effet théâtral. Talent difficile à analyser, en ce qu'il ne paraît dépendre d'aucune qualité appréciable, et qu'il tient sans doute à un genre particulier d'imagination. Ces pièces produisaient toujours beaucoup plus d'impression à la répétition qu'à la lecture, et à la représentation qu'à la répétition. Plus l'assemblée était nombreuse, et plus l'effet en était fort et remarquable. De même, ces ouvrages nous ont frappés davantage, étant imprimés que manuscrits. Et plus ils ont été répandus, plus ils ont gagné aux yeux de leurs premiers juges. Elle avait l'art de s'emparer des esprits en grand et possédait le don d'agir sur les masses. Quand on songe au titre qu'avait Madame de Staël à une gloire solide, on peut s'étonner de l'intérêt prodigieux qu'elle mettait à ses représentations théâtrales. Mais elle trouvait là ce qui lui était le plus agréable dans tous les succès, la certitude de s'entendre avec les autres, le plaisir de faire vibrer fortement certaines cordes au fond des cœurs. Elle n'en demandait pas davantage à la gloire. C'est dans les yeux de ses contemporains qu'elle aimait à lire le présage du rang que lui accorderaient les siècles futurs. Et elle jouissait du moment présent comme si elle n'eût pas espéré l'immortalité.